OK, let's go! Salut tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode de Zoom sur l'intrapreneuriat. Aujourd'hui, on a une invitée très, très, très spéciale. Une personne qui démontre tellement d'intérêt envers le tourisme et qui maintenant, d'ailleurs, tout un parcours. J'ai vraiment hâte de vous la présenter et qui va nous parler aujourd'hui. Bien qu'on parle d'intrapreneuriat, je vous invite à noter le mot qui suit. On va parler de repreneuriat avec Audrey Sébille du Centre de transfert d'entreprise du Québec. Audrey, salut!
Salut!
Merci d'avoir accepté l'invitation.
Ben merci, merci à toi pour cette proposition. C'est intéressant de pouvoir partager justement le repreneuriat avec tes élèves
et d'ailleurs,
de faire découvrir.
Et d'ailleurs, c'est même toi qui m'as écrit en fait.
Oui.
Donc, je tiens à te remercier de m'avoir écrit et d'être si ouverte à cette proposition-là là, pour qu'on puisse discuter de repreneuriat. Un peu le maillage avec l'intrapreneuriat, un peu d'entrepreneuriat. Bref, on parlera des nerfs un peu ensemble dans les prochaines minutes, mais surtout sur le repreneuriat qui est vraiment un enjeu au Québec en termes touristiques, de relève. J'aimerais peut-être t'entendre pour commencer un peu. C'est quoi ton rôle au sein du CETEC? Qui es-tu et pourquoi t'as accepté de venir nous parler aujourd'hui? Grosse question.
Donc, actuellement, je suis en charge du développement de la clientèle touristique au CETEC. Donc, je suis mandatée par le ministère du Tourisme pour ce rôle-là. Mon but, c'est vraiment de pouvoir développer la clientèle de repreneurs, donc les gens qui veulent racheter des entreprises, et la clientèle de cédants, donc les gens qui veulent vendre des entreprises. Le but, c'est vraiment de développer cette clientèle pour pouvoir les mettre en maillage, on appelle ça, donc les faire rencontrer les uns et les autres, pour pouvoir vendre et racheter des entreprises touristiques, ce qui va amener à assurer la pérennité du tourisme et de ces entreprises au Québec.
Seulement? Non, c'est une blague. J'imagine que c'est tout un défi, Audrey. Comment tu réussis à faire ça dans ton quotidien? Ça ressemble à quoi une journée type pour toi, tu sais, par rapport à ça, à cet enjeu qui est sur le territoire? Ici, juste pour situer les gens, on est sur René Lévesque, on est centre-ville Montréal, dans ton bureau. Comment tu fais pour parler du CETEC, de ta mission, mais sur le territoire?
Ben, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec les ATR, donc les associations touristiques régionales, avec les ATS, les associations touristiques sectorielles. Donc, eux sont nos principaux contacts, on va dire, pour démarrer, notamment pour les membres de ces associations, qui nous permettent de joindre beaucoup de cédants, donc beaucoup d'entreprises surtout. Mais c'est sûr que pour les repreneurs, on est en train de développer justement pour contacter les centres de formation, les centres universitaires, comme notamment l'ITHQ, où le but, c'est vraiment de contacter les futurs repreneurs de demain pour pouvoir les interpeller, les sensibiliser dès maintenant au repreneuriat qui est un enjeu pour les 10 prochaines années au Québec et qui et on a besoin d'eux justement pour assurer cette relève. Donc on veut leur faire comprendre à quel point ils sont importants pour assurer la relève touristique.
Ce qui est tellement pertinent, je trouve, dans la démarche du CETEC, c'est d'ailleurs c'est ce que tu m'avais dit en pré-entretien quand on s'était parlé pour planifier cet enregistrement. Tu me disais que c'est sûr que c'est cool là, de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle business, mais il y a tellement de potentiel de reprendre. Hein? C'est ça le repreneuriat, quoi. C'est pour ça que tu parles de cédant et de repreneur. Peux-tu nous expliquer un peu la mécanique là? Ça fonctionne comment un repreneuriat, là, grosso modo?
C'est ça le repreneuriat, en fait, c'est la façon de racheter une entreprise. Donc c'est sûr qu'on a l'entrepreneuriat qui nous permet de lancer une entreprise, démarrer une start-up. On va avoir le repreneuriat qui, lui, va permettre justement de racheter une entreprise déjà existante. Et c'est là où c'est intéressant par rapport à l'intrapreneuriat et par rapport aux cours que les élèves suivent parce qu'ils vont pouvoir acquérir une certaine connaissance théorique qui va leur servir tout au long de leur carrière par la suite. Mais surtout, grâce à ces connaissances, ils vont pouvoir les utiliser par la suite s'ils veulent devenir propriétaires dirigeants d'entreprise. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'ils vont pouvoir développer davantage ces connaissances dès le départ.
Et ça, c'est clairement des compétences qu'on peut dire genre transversales, de polyvalence, parce que d'avoir ces skills-là, ces qualités-là, ben d'un repreneur et d'un dirigeant, ça peut les suivre pour le restant de leur carrière, quoi.
Clairement. Ça va les suivre tant en tant qu'employé, en tant que gestionnaire aussi, mais par la suite en tant que dirigeant, c'est sûr.
Et toi, depuis que tu es arrivé en poste, est-ce que tu remarques certaines qualités, certaines compétences qu'un repreneur doit avoir pour que le projet fonctionne?
Ben c'est sûr qu'on a différents profils. J'en ai eu beaucoup. Mais souvent, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelqu'un qui est ben, c'est sûr motivé, mais passionné aussi, c'est important. Je pense qu'il y a une certaine passion, un certain engouement, pardon, pour le tourisme, pour le service client, qui est prêt à vraiment ne pas compter ses heures, qui est là pour vraiment assurer un service au client et qui a un certain leadership quand même. Je pense qu'il faut avoir un petit peu de leadership pour pouvoir chapeauter le tout tel une pieuvre.
c'est vraiment une belle, très très belle image. C'est vrai que l'image de la pieuvre, même que je vais la noter, parce que c'est fort intéressant quand on est entrepreneur, intra ou repreneur, on gère plusieurs dossiers en même temps, on n'a pas le choix. Là.
Ah, c'est sûr. Il faut avoir un œil partout, il faut avoir une oreille partout, parce que oui, on peut s'entourer des bonnes personnes lorsque. On est un restaurateur, qu'on achète un hébergement, si on a une personne qui est dédiée par exemple au niveau de l'hébergement pour nous aider dans cette partie-là, c'est sûr. Mais il faut quand même avoir des notions et donc il faut avoir quand même un œil partout pour pouvoir avoir son propre avis aussi.
Et c'est pour ça que là, tu arrives aussi en ligne de compte, non? Dans la démarche de repreneuriat, vous offrez des services, vous ouvrez un dossier avec un client, mais par exemple, là, s'il y a des étudiants ou la communauté qui nous écoute en ce moment, ils disent « Ah ouais, ben moi, c'est sûr, j'ai mon oncle, j'ai mon grand-père, j'ai un ami qui là, cherche un vendeur. » Vous arrivez en ligne de compte à ce moment-là au niveau du repreneur et du cédant, quoi?
On peut même arriver avant. En fait, c'est ce qu'on essaye de faire, notamment avec les cédants de plus en plus, parce qu'on remarque que les cédants, malheureusement, s'y prennent un petit peu trop tard. Souvent, ils y pensent au moment où ils veulent partir à la retraite en se disant « Bon, bah, c'est bon, le tout va être bouclé d'ici 6 mois, 1 an, mais non. » Des fois, ça peut prendre, en moyenne, un transfert d'entreprise, c'est entre 2 et 5 ans.
Waouh, ça, c'est
donc,
intéressant.
Il faut vraiment le planifier, il faut s'organiser en amont. Et c'est pour ça qu'on essaye de sensibiliser aussi, justement, les cédants avec les associations touristiques. Et le but, c'est de pouvoir les attirer avant qu'ils soient dans le processus. Et pour les repreneurs, oui, c'est sûr que c'est quand le processus va commencer un petit peu à émerger dans la tête, qu'on commence à se dire bon ben pourquoi pas lancer mon entreprise, pourquoi pas être mon propre chef d'entreprise. À ce moment-là, même si le repreneur se lance vraiment vers l'entrepreneuriat, il y a encore des chances qu'il puisse se tourner par la suite vers le repreneuriat parce que en voyant justement l'investissement financier, l'investissement en temps et puis l'investissement personnel qui a au complet que ça demande, c'est sûr que le repreneuriat devient une belle opportunité.
Et c'est là peut-être que la frontière est un peu parfois floue ou mince. Un entrepreneur qui part sa business peut, pour se développer, pour grandir, acheter d'autres entreprises également dans une démarche de repreneuriat à un certain niveau. Donc, c'est pour ça qu'on se disait que c'est complémentaire. Tout ça, au final, le but, c'est quoi? T'sais, c'est que la santé financière du Québec, que l'échiquier de l'offre reste, se bonifie à moyen et long terme aussi. Vous êtes dans le présent à la CETEC, mais vous êtes aussi dans le futur en même temps, non?
C'est ça, c'est notre but, c'est vraiment d'assurer déjà la pérennité actuelle, mais justement pour pérenniser les entreprises sur le long terme. Donc c'est sûr que notre intérêt aussi est un point sur lequel on appuie vraiment. On fait attention à ce que les repreneurs qui s'inscrivent chez nous ont vraiment un projet de laisser l'entreprise au Québec et de vraiment l'assurer, la continuité de l'entreprise au Québec. Parce qu'on a aussi des repreneurs qui viennent de l'étranger et qui sont francophones, qui ont des opportunités parce qu'en plus ils ont été dans le domaine du tourisme auparavant. Mais avant tout, la première question, ça va être est-ce que vous allez rester au Québec? Il faut que vous puissiez continuer à pérenniser l'entreprise au Québec, c'est le plus important pour nous.
Et d'ailleurs, tu as mis dans le document préparatoire une donnée très intéressante, toute taille confondue, là, suite à la pandémie, qui envisage de vendre. Peux-tu nous dire, et là j'espère que tout le monde nous écoute bien, le potentiel de repreneuriat? C'est vraiment intéressant là.
Bah, c'est sûr que d'ici la fin 2020, on va avoir 15 000 entreprises qui avaient été projetées, toutes tailles confondues, qui seront à vendre. Donc c'est quand même un gros potentiel. Et puis c'est sûr qu'au niveau du nombre d'entreprises et qu'on fait à chaque année, nous on fait en moyenne 150 transferts par an, tous secteurs confondus. Wow. Donc c'est sûr que à petite échelle, on se dit c'est que 150 entreprises, oui, mais ça prend tellement de temps.
Mais c'est une entreprise aux deux jours, aux 2,5 jours, quoi, c'est énorme.
Ça montre qu'il y a quand même de la demande et ça montre qu'il y a vraiment un besoin d'appui et de sensibilisation au repreneuriat pour pousser les gens à développer ça parce qu'on en a besoin pour assurer autant l'économie touristique que l'économie globale du Québec.
Et c'est pour ça que je voulais qu'on s'assoie ensemble parce qu'on connaît l'entrepreneuriat, ses bons côtés, ses défis. On connaît l'intra, maintenant, ceux qui nous écoutent en connaissent peut-être davantage. Hein. C'est un terme qui était peut-être un peu flou en début de parcours. Maintenant, je pense que, et j'espère que c'est maîtrisé. Et le reprenariat, ça reste peut-être encore flou dans l'esprit des gens qui nous écoutent. C'est assurément plus clair maintenant, mais c'est quoi les avantages du reprenariat? C'est quoi vraiment ta carte de visite, toi, quand tu rencontres les gens? C'est quoi un peu ton argument clé, massue, là, pour convaincre les gens d'aller de l'avant avec ça, là?
Ben, c'est sûr que par rapport à l'intrapreneuriat où on est dans l'entreprise, mais malheureusement, on n'a pas toutes les cartes non plus. Là, on va vraiment être chef d'entreprise. Par rapport à l'entrepreneuriat, la petite différence, c'est que oui, on va être chef d'entreprise, mais on va avoir des avantages au niveau financier. En fait, le fait d'avoir déjà une entreprise qui est bâtie depuis plusieurs années, qui a des états financiers, qui a sa clientèle,
qui est référencé sur le web.
Qui est référencé, etc. Oui, oui. Tout ça, ça a un poids et ça a un prix. La clientèle peut avoir un prix. La notoriété a un prix. Ce qui fait que du coup, lorsque les repreneurs vont se lancer à demander un financement auprès d'un organisme, ce sera plus facile d'avoir une base déjà pour établir son processus financier ou son plan budgétaire. Donc il y a déjà ça. On a beaucoup d'organismes aussi qui aident au reprenariat, qui existent, notamment pour les 18-35 ans. Au Québec, donc c'est très très intéressant pour cette clientèle-là s'ils veulent se lancer en reprenariat. Et nous, c'est notre but aussi de les référencer vers ces organismes-là.
Comme quoi par exemple, Audrey, je te coupe, mais comme quel type d'organisme peut-être que les gens qui nous écoutent pourraient faire une petite recherche là?
Bien sûr, il y a Futurpreneur par exemple, qui eux sont pour les 18-35 ans spécialisés sur le financement. Il y a la BDC qui aide beaucoup, qui justement est en relation avec Futurpreneur. On a aussi Logique qui, elle, offre plus un accompagnement au niveau reprenarial pour les 18-35 ans. On va avoir ils ont changé le nom dernièrement.
Est-ce que c'était Femme et Sœur avant?
Oui, Femme et Sœur, c'est Évol.
Exact, Évol, oui. Ouais, c'est, j'ai le même réflexe que toi, j'ai OK. J'ai comme de la misère à le dire aussi. Parce que Femme et Sœur est assez connue plutôt pour la clientèle, disons, féminine, là, pour les entrepreneurs ou les repreneurs.
Exactement.
Repreneuses, bref.
Ben, nous, on a considéré que c'était repreneur tout court.
Tout court.
Soit plus simple.
Ouais, let's go, on fait ça comme ça. C'est plus inclusif, j'imagine, c'est de cette façon-là aussi. Et là, maintenant, j'aimerais qu'on puisse. Et d'ailleurs, merci pour ces références-là, parce que vous savez que les. Ben, en accueil, les programmes de formation sont souvent mis sur former des bons employés, des bons gestionnaires dans des bannières, dans des groupes qui existent déjà. On parle un peu plus d'intra et de repre, mais tranquillement. Donc, c'est vraiment le fun, je trouve, que les gens qui nous écoutent puissent déjà se mettre dans une perspective que c'est possible. Là, il y a trois voies. Là. Si tu veux partir ton propre truc, tu peux soit partir ton truc, soit intra ou reprendre quelque chose qui existe déjà avec tous les avantages que tu viens de nommer. Le poids de la notoriété, c'est vraiment intéressant et
puis même, en plus de ça, il y a le fait d'obtenir le savoir de cette personne qui va vous céder l'entreprise. Quand le cédant va quitter, il y aura toujours une période de transition pendant laquelle il va vous transmettre le savoir, ce qui est intéressant. Donc du coup, vous allez acquérir rapidement quelques compétences ou connaissances que vous n'aviez peut-être pas forcément acquises par le passé ou que vous connaissiez de loin et que là, au moins, c'est vous qui allez être amené à gérer ça.
Genre de mentorat,
c'est
en
ça.
Quelque sorte. Là.
C'est ce qu'on privilégie. Ça dépend du cédant, etc. Mais en général, de toute façon, pour faire un bon achat d'entreprise, il faut qu'il y ait quand même un bon fit entre le cédant et le repreneur. C'est toujours quelque chose d'humain avant d'être quelque chose de capital. Ouais. Donc, l'humain passe avant tout. Et c'est sûr que le transfert de savoir, va se faire plus facilement à ce moment-là. Et le cédant sera plus ouvert à faire une transition plus progressive et à rester quand même sur le moyen terme pour pouvoir transmettre toutes ses connaissances au futur cédant.
Vraiment intéressant. À ce stade-ci de l'entretien, j'aimerais que tu donnes peut-être certaines coordonnées, là, juste avant d'oublier à la fin, site web, Facebook, est-ce qu'il y a un endroit où tu invites les auditeurs du podcast à consulter, là?
Ah oui, ben, ils peuvent visiter notre site web sur cteq.com, ouais. Donc le site web directement. On a la page Facebook, mais c'est sûr que on l'utilise pas... C'est moins renommé. Peut-être que sur le LinkedIn, ce sera mieux.
Okay.
C'est plus, y a plus d'articles. Et d'ailleurs, je profite pour ça d'en parler au niveau du blog. Je les invite à vraiment aller consulter notre blog. Il y a à la fois des webinaires très, très intéressants pour savoir si vous êtes prêt à vous lancer en reprenariat, quels sont les points clés à avoir, comment obtenir du financement, etc. Il y a plein de webinaires sur différents sujets qui peuvent aider les repreneurs à se lancer. Et puis, ils auront un panel d'informations, notamment le guide du repreneur qui est gratuit, téléchargeable sur notre site aussi. Donc, je pense qu'entre le site et le LinkedIn, les deux seront vraiment en relation et pourront leur permettre d'avoir une panoplie d'informations et d'outils pour en savoir plus.
Le guide du repreneur, je me prends également des notes. Là, ceux qui nous ne voient pas, et évidemment, je prends plein de notes depuis tantôt. J'espère que vous faites la même chose, c'est vraiment pertinent. Peut-être qu'on peut zoomer un peu dans l'industrie touristique. Tu disais d'entrée de jeu qu'il y a quand même beaucoup de défis et que le repreneuriat peut être une de ces solutions-là. Peux-tu nous éclairer un petit peu là-dessus? C'est quoi ta vision par rapport au secteur touristique, tes enjeux clés? C'est quoi ton plan de match pour la prochaine année et demie en termes de repreneuriat? On aimerait savoir.
C'est ça, au niveau du secteur touristique, en fait, on a pu le voir que la pandémie a touché pas mal le secteur, ça on le sait maintenant. Et c'est vrai qu'avec ça, ben, malheureusement pour certains cédants, mais d'un côté, heureusement pour certains repreneurs, il va y avoir des opportunités. Elles commencent à arriver parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de cédants qui étaient pas loin de la retraite, donc pas loin de commencer à penser au processus de relève. Mais la pandémie a parfois accéléré les choses parce que ça les a essoufflés, ça les a fatigués, ça a été un coup dur à subir, à vivre. Donc des fois, ils préfèrent se lancer dès maintenant dans ce processus de repreneuriat pour que ça se fasse rapidement. Donc c'est sûr qu'il va y avoir dans les 5 prochaines années, il va y avoir vraiment des opportunités là-dessus. Je pense aussi au fait que le repreneuriat dans le domaine touristique va se développer parce qu'on a de plus en plus de gens avec la pandémie justement qui ont eu l'occasion de se former, etc., au processus d'entrepreneuriat, au processus entrepreneurial, au processus repreneurial. Donc ils vont avoir envie de se lancer eux aussi. Et beaucoup de gens qui avaient déjà de l'expérience dans le secteur du tourisme et qui ont eu l'habitude d'acquérir tout ça et qui se sentent prêts enfin à devenir des repreneurs. Donc je pense que ça va un petit peu boomer. Puis c'est ça, de manière générale, on aspire à ce que les repreneurs puissent se lancer, qu'ils n'aient pas peur surtout, qu'ils puissent se dire qu'eux aussi, il n'y a pas d'âge. On remarque que de plus en plus, les 18-30 ans sont majoritairement maintenant les nouveaux repreneurs.
C'est ceux qui nous écoutent là.
Avant la pandémie.
Exact.
C'est ça.
Ah, c'est cool.
Avant la pandémie, on était plus sur du 30-50 ans.
Ok. Ma tranche d'âge à moi, là, juste. Ben bon, sans trop en donner, c'est ma tranche d'âge.
D'accord.
Juste, non. 30-50, ça me donne beaucoup de marge de manœuvre. Là.
Mais oui, c'est ça, des 30-50 ans. Donc ça laissait présager que c'était quand même généralement des gens qui avaient quand même une certaine expérience. Alors que là, même les gens qui sortent des études sont prêts à se lancer. Le principal conseil que je pourrais donner à ce moment-là, juste se faire accompagner. C'est vraiment important parce que oui, on a des connaissances dans un domaine en particulier, que ce soit l'hébergement, la restauration, les loisirs, etc. Mais le processus de transfert, c'est un complexe qui est long, qui demande beaucoup d'énergie et il y a quand même des connaissances à avoir. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des experts qui nous entourent et c'est là où que le CETEC agit en fait pour accompagner et aider à assurer ce transfert.
Est-ce que tu as remarqué depuis que tu es entré en fonction peut-être un point faible que tu revois souvent auprès des repreneurs? Est-ce que c'est, sans vouloir mettre les mots dans ta bouche, mais est-ce que c'est plutôt des fois au niveau prévision financière? Est-ce que c'est au niveau légal? Est-ce que c'est au niveau compréhension de l'environnement externe, modèle d'affaires? Est-ce qu'un enjeu là, que tu...
Oui, dès le départ en fait.
Ouais.
La plupart du temps, ils n'ont pas du tout... Ils sont conscients, ils veulent racheter une entreprise, mais ils n'ont pas réfléchi dans les détails au type de projet. Quelles capacités financières ils ont. Est-ce qu'ils veulent racheter, par exemple, dans une ville en particulier ou dans une région en particulier? Est-ce que si demain, par exemple, ils sont à Montréal et ils trouvent une opportunité dans la Côte-Nord, est-ce qu'ils sont prêts à se déplacer vraiment? Parce que souvent, ils disent « Non, mais moi, je suis ouvert à tout ». Mais être ouvert à tout, c'est être ouvert à rien en même temps.
C'est ça, ouais.
Donc, des fois, c'est difficile de mieux cerner son projet. C'est ça, mieux cerner son projet, essayer de se poser des questions, savoir si on est prêt à déménager, combien de temps on est prêt à allouer à ce projet, combien de temps on veut aussi allouer à notre entreprise, est-ce qu'on veut être seul, est-ce qu'on veut avoir des investisseurs, est-ce qu'on a les moyens financiers, ou au moins, est-ce qu'on est prêt à se construire une mise de fonds pour après avoir de l'aide et du support financier avec des organismes. Juste au moins, ça c'est la base.
Et ça, c'est intéressant parce qu'au début, tu parlais de maillage. Donc, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement ciblé en amont une compagnie, qui viennent vous voir en disant « Hey, salut, nous autres, on veut reprendre quelque chose qui existe déjà. » De l'autre côté, tu as des cédants qui disent « Hey, salut, on cherche une relève, on n'a pas réussi à trouver à l'interne, par exemple. » Parenthèse sur l'entrepreneuriat, c'est vrai que ça peut être une avenue éventuelle. Et donc, faites ce maillage-là. Est-ce que des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui sont déjà en contact, un cédant et un repreneur, qui ont commencé la démarche et qui vous contactent par la suite aussi?
Effectivement, okay. Ça arrive aussi. Ça tombe bien, on va pouvoir expliquer un petit peu les différents types de repreneuriat.
Oui, tout à fait.
Parce que les élèves peuvent être amenés par la suite à y être confrontés.
Bonne idée.
Donc, on a des fois des cédants et des repreneurs qui nous contactent parce qu'effectivement, ils se sont déjà rencontrés, ils ont commencé le processus, puis ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas vraiment vers où se diriger pour la suite des choses. Donc, ils nous contactent à ce moment-là et nous, on va prendre la relève pour justement, des fois, repartir en arrière et leur dire « Ah, vous avez sauté quelques petites étapes, on va repartir en arrière, reprendre dès le départ et puis relancer le processus avec eux. »
Et d'ailleurs, je te coupe, Audrey, mais tu disais que pour ouvrir un dossier, tu me disais l'entretien, c'est un petit montant d'ailleurs, juste pour ouvrir un dossier.
C'est 120$ plus ça.
120$ pour l'accompagnement et tout ça.
Pendant une année au complet, avec l'accompagnement, le référencement, wow. le coaching, le mentorat d'un conseiller, nous en particulier une conseillère qui est dédiée au tourisme, okay. Et qui est là pendant une année pour répondre à toutes les questions par Zoom, Teams, courriel, téléphone. Donc c'est ça qui est avantageux parce que notre but, c'est pas du tout de faire de l'argent, on est là vraiment pour aider et accompagner. Dans le processus de relève.
OK. Mais merci pour la précision parce que je trouvais ça peut-être intéressant pour les gens qui nous écoutent. Ah, c'est 120, OK, mais c'est pas 7000 ou 5000 pour ouvrir un dossier. C'est juste, OK, on est en mode exploratoire puis on voit ce qu'on peut faire aussi.
C'est ça.
Mais ça démontre le sérieux aussi de mettre le 120. C'est pas,
exactement.
Ils vont se présenter aux entretiens, aux rendez-vous aussi. Là.
Voilà, travailler sur son profil, pouvoir travailler sur ce qu'on recherche, etc. C'est important pour pouvoir mener à bien le projet.
OK.
Et du coup, pour en revenir aux différents transferts, c'est sûr qu'on a aussi le transfert en interne, qui est un transfert qui peut se faire avec surtout les élèves qui font de l'intrapreneuriat. S'ils sont amenés à, par la suite, évoluer dans l'entreprise, ils peuvent avoir des opportunités justement de devenir propriétaires. Mais il y a différentes façons. Soit, on appelle ça le management buy-out, donc ça va être quelqu'un qui est dans la gestion de l'entreprise, qui va devenir le propriétaire parce qu'il aura tissé un lien avec le cédant et que le cédant l'aura vu comme sa potentielle relève. On a aussi à ce moment-là les co-op, donc la création de coopératives. Et là, en fait, c'est différents employés de l'entreprise qui décident de racheter ensemble l'entreprise. Et après, les solutions de rachat avec quelqu'un d'externe ou le rachat, le transfert familial. Donc, dans un transfert dans la famille, que ce soit avec un oncle, une tante ou avec un cousin, un neveu, un enfant.
Un transfert est considéré comme du repreneuriat, en fait?
Oui.
OK.
Oui, parce que dans tous les cas, pour pouvoir transférer, il y a quand même une partie de rachat des actions au départ à faire avec la personne, même si elle fait partie de notre famille. Il faut lui racheter ça parce que fiscalement, il y a des enjeux à prendre en considération.
Et en tourisme, lequel des types vois-tu le plus souvent ou es-tu le plus connu, du moins le plus fréquent?
Le plus fréquent, on va dire que c'est l'externe. C'est sûr que c'est celui qu'on retrouve souvent. Nous, on aime bien pousser l'interne parce que c'est vrai qu'on trouve que les gens qui sont en interne ont du potentiel.
Ouais.
Donc, il faut penser à eux avant tout, avant de vouloir penser à racheter avec quelqu'un d'externe. Donc, c'est le premier discours qu'on essaie de tenir avec les cédants. Mais des fois, ils ont déjà essayé, la personne n'est pas prête ou ne veut pas. Donc, c'est sûr qu'après, on considère l'externe en deuxième position. Et on entend de plus en plus parler, notamment c'est ma collègue Nathalie qui m'avait indiqué ça, de plus en plus du co-op. Puis nous, on a une personne aussi qui est dédiée au CETEC pour ça et qui aide à créer justement la coopérative. Et on en entend de plus en plus parler au niveau touristique.
Très intéressant. Je me permets une parenthèse. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur les coopératives de travailleurs actionnaires qui rachètent justement une partie des actions au sein du CA. Puis il y a plein de bénéfices clairs là, par rapport à ça, être plus impliqué dans les décisions. C'est quelque chose justement qu'on voit sur 2-5 ans et on voit un vrai impact, quoi. Pas nécessairement dans le but de repreneuriat, c'est super intéressant de le pousser jusqu'à là,
ouais.
Même juste dans une gestion quotidienne que des employés voient au CA, on voit qu'il y a quand même un management dont on commence à entendre parler, mais qui est peu connu, quoi.
Oui.
De façon générale, malheureusement. Là,
non, mais c'est bien parce que ça permet aussi à tous les employés de s'investir dans l'entreprise, ouais. Etc. Puis c'est bénéfique pour les repreneurs, donc les employés, et pour le cédant. Donc, c'est ça qui est intéressant.
Et tu parlais de Nathalie pour le bénéfice de tout le monde. C'est ta collègue ici, oui?
Nathalie est la conseillère en transfert d'entreprise dédiée au tourisme au CEPEC.
Et son nom de famille, peut-être que les gens
Nathalie
veulent...
Nathalie Boudreau.
Boudreau. Donc,
ils pourront la retrouver sur le site internet.
OK.
Dans l'équipe, en fait, vous avez l'équipe au complet. À ce moment-là, vous avez son contact si besoin.
Audrey, tu es vraiment une fille de maillage, on le voit. C'est vraiment super intéressant. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, tu sais, vraiment ton parcours, on a peut-être été un peu rapide au départ, mais tu viens de l'hôtellerie, toi.
Oui.
Tu es française, tu es arrivée au Québec pour des nouveaux défis. Peux-tu juste, faisons une parenthèse sur toi, c'est quoi un peu ton parcours et comment tu es arrivée au CETEC?
Ah oui, bien sûr. Ben, j'ai étudié en hôtellerie en France, en hôtellerie, tout ce qui est hébergement et restauration. Et puisqu'on a différentes options dans les diplômes français. Et puis, à la suite de ce diplôme-là, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour le Negresco en France, pour Marriott International, Relais Château. Et à la suite de ça, j'avais toujours été au niveau des opérations et je voulais vraiment passer au niveau des ventes. Mais j'avais des difficultés en France à pouvoir vraiment passer à l'étape supérieure. Souvent, on me disait « Non, il va falloir attendre encore quelques années, etc. etc. » en interne. Donc, j'ai fini par prendre mes valises
et traverser l'Atlantique
pour venir à Montréal et avoir cette opportunité, toujours pour Marriott International. Et puis, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour eux. Par la suite, j'ai travaillé pour le groupe Antonopoulos, toujours en vente, donc gestionnaire des ventes. Et puis, la pandémie est arrivée, malheureusement.
Classique, malheureusement.
Classique. Donc, j'ai perdu mon emploi dans ce secteur-là. Et puis, du coup, j'ai eu l'opportunité de travailler pour le CETEC à la base en tant que chargée relations clients par rapport à mon parcours justement avec la clientèle. C'est ça qui leur plaisait, le fait aussi d'avoir travaillé avec des CRM, parce que c'est vrai qu'en hôtellerie on en voit tellement que finalement j'avais touché à pas mal de CRM. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu obtenir ce poste. Et puis une ouverture s'est faite au niveau touristique.
Ouais.
Et là, revenir à mes passions, c'était primordial pour moi. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion et voilà, aujourd'hui, je suis ici.
Et on fait ce podcast Zoom sur l'entrepreneuriat. Zoom sur le repreneuriat, on pourrait dire aujourd'hui dans cette émission spéciale. Mais c'est vraiment inspirant parce que c'est vrai que des fois, on top hein, après plusieurs années dans les opérations, soit qu'on est fatigué d'être toujours dans le, tu sais, par rapport au front of the house, t'es toujours là avec les clients constamment. Et on voit que les compétences que tu as pu acquérir, elles sont hyper profitables maintenant ici. Au CETEC, c'est quoi l'échange? Jamais tu aurais peut-être pu penser un jour que tu allais devenir conseillère ou consultante comme ça?
Non, oui, ben là je suis chargée. mais effectivement, j'aurais jamais pensé à travailler en dehors d'un hôtel.
Exact.
Ça m'était jamais venu à l'idée. Enfin, j'avais travaillé quelques années en vente dans des boutiques à la suite de mes études parce que les choses ont fait que. Mais jamais je me serais vue travailler dans un autre domaine. Et puis finalement, au contraire, le fait d'avoir eu cette expérience, aujourd'hui, quand il faut accompagner des repreneurs ou des cédants, c'est ça qui est intéressant parce que je comprends leur parcours, je comprends ce qu'ils ont vécu.
Ouais.
Quand ils nous disent le restaurant est fermé ou quoi, on comprend pourquoi, on sait ce qu'il y a derrière.
Ouais.
Et c'est ça on sait s'adapter du coup à eux aussi.
Et c'est très intéressant parce que le portrait québécois des types d'entreprises, disons, c'est un chiffre que j'avais lu une fois, il faudrait que je retrouve la source, c'est pas très professionnel comme professeur, mais c'est environ 80% des entreprises touristiques au Québec qui sont des PME.
Oui.
20% c'est des grandes bannières, des grandes chaînes, les Hilton, et encore, c'est les bannières maintenant, c'est même plus les propriétaires, ça reste des groupes asiatiques, chinois, québécois, la Caisse de dépôt qui sont propriétaires, donc c'est vraiment un écosystème de PME, donc le potentiel de repreneuriat touristique est énorme à Montréal, mais partout sur le territoire.
Oh ben, partout et surtout en région.
Surtout en région,
parce
que
la plupart des entreprises touristiques se situent en région, contrairement à ce qu'on peut penser.
Tout à fait, oui. On est un peu dans une bulle à Montréal, hein. On va se l'avouer. Là.
C'est vrai qu'on a nos entreprises touristiques ici, donc on les voit, mais on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais finalement, il y en a une plus grosse partie dans les régions.
Tout à fait.
Donc c'est ça qui est fantastique. Et puis c'est surtout le fait que, oui, il y a un gros potentiel. Par exemple, avant la pandémie, on avait 57% des PME qui étaient des entreprises avec un potentiel de repreneuriat
wow.
qui était dans le secteur du tourisme et de l'hébergement-restauration.
Okay.
C'est pour ça aussi que je pense qu'on a eu ce mandat au niveau touristique avec le ministère du Tourisme.
Plus qu'une entreprise sur deux, potentiel de repreneuriat.
C'est ça.
Et nous, dans nos programmes de formation, on est comment il faut devenir employé, on manque de personnel. C'est vrai, certes.
Oui,
certes,
oui.
On a une pénurie. Mais il y a ce potentiel-là éventuellement, surtout au niveau du baccalauréat, là, les
Exactement.
Étudiants qui nous écoutent en ce moment. très intéressant.
S'ils ont eu de l'expérience sur le plancher et qu'ils se sentent prêts à relever des défis, à être leur propre dirigeant, leur propre chef d'entreprise, il y a des opportunités pour eux qui attendent.
Et le mot-clé, c'est accompagnement aussi, c'est ce que j'ai compris.
Oh oui.
Accompagnement, parce que ça s'improvise un peu, être entrepreneur, mais il y a quand même, tu sais, du coaching à faire, c'est clair, il faut être assurément complémentaire avec une équipe, avec vous et tout ça. Mais il y a aussi la patience, ce que j'ai aussi retenu, c'est le 2 à 5 ans, c'est plus long qu'on pense.
Oui. Ben c'est vrai que ça dépend du type d'entreprise aussi. Ouais. C'est sûr que si c'est une entreprise dans le domaine industriel, ça va aller presque jusqu'à 2 à 5 ans.
Ah, parce que les actifs sont énormes.
Il y a énormément de choses à passer.
Beaucoup d'enjeux.
C'est ça. C'est sûr que pour les hébergements, la restauration, les loisirs, le tourisme, on peut aller à moins de 2 ans.
Ouais.
Mais en général, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se précipiter. Il ne faut pas se dire, ben, je me lance maintenant et je suis sûre d'avoir une entreprise que j'aurai rachetée dans 2 ou 3 mois. Non. Ça prend du temps parce que autant le cédant a besoin de se préparer, le repreneur a tout aussi besoin de se préparer en amont. Donc il y a vraiment, nous notre conseiller est là justement pour préparer les deux avant de procéder au maillage. Parce qu'il y a énormément de questions à se poser avant de vouloir se lancer.
Vraiment intéressant. Il reste quelques minutes à notre entretien, Audrey. Et ça serait le fun de peut-être que tu partages un exemple concret de repreneuriat. Mais on pourrait peut-être conclure là-dessus d'ailleurs et peut-être avec un conseil ou un mot de la fin. Mais juste avant, est-ce que tu aimerais donner d'autres informations sur le CETEC? Est-ce que tu as d'autres éléments à partager dans ce podcast?
C'est sûr que nous, si les élèves ont la moindre question, moi je peux leur répondre. Ils peuvent m'appeler, ils vont avoir mon contact directement sur le site.
Cool.
Donc il n'y a aucun problème, ils peuvent m'appeler gratuitement. Moi je vais pouvoir répondre à leurs premières questions. L'inscription n'est pas payable tout de suite si jamais ils veulent pouvoir s'inscrire. Comme ça, ils vont toujours avoir un premier appel aussi avec nos chargés. À la suite de ça, ils auront déjà quelques réponses à leurs questions. À la suite de ça, il y aura les frais, effectivement. Mais ensuite, ils peuvent procéder au processus pendant un an. Et à savoir que même s'ils trouvent une entreprise qui n'est pas affichée à notre index, qui est d'ailleurs, je ne l'avais pas mentionné plus tôt, mais notre plateforme sur laquelle on affiche les entreprises à vendre.
Ah, donc sur l'index.
L'index.
Qu'on retrouve sur votre site.
C'est ça.
Ah, okay.
Ils peuvent retrouver l'index, donc c'est sûr que c'est accessible une fois qu'ils ont fait l'inscription. Mais même si, admettons, ils trouvent une entreprise par un autre biais, du réseautage ou d'autres sites, à ce moment-là, ils peuvent toujours faire appel à nous et nous, on va les accompagner, quoi qu'il arrive.
Waouh!
Donc c'est ça qui est intéressant pendant une année au complet. Même si le cédant n'est pas inscrit chez nous, on peut les accompagner, on a l'habitude de ça.
Et ce qui est très clair, je trouve, dans ton discours, c'est la mission du CETEC. C'est justement d'assurer la pérennité des entreprises québécoises. Toi, c'est plus en tourisme, dans l'accueil. On parle de restauration, hôtellerie, loisirs, tu disais aussi tantôt. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, parcs d'attractivité? Je veux dire, on va jusqu'à où dans le tourisme pour le CETEC?
J'ai déjà vu jusqu'à des vignobles, par exemple, jusqu'à agro-tourisme.
Intéressant.
C'est vrai qu'on en a quelques-uns, surtout au Québec.
Oui, de plus en plus d'ailleurs. Avec les... Bon, sans être trop dramatique, avec les changements climatiques éventuels, on verra peut-être voir plus d'opportunités de vignobles.
C'est ça, peut-être.
C'est peut-être un mal pour un bien, éventuellement, de produire plus de vin chez nous.
Le vin, c'est sûr que c'est une belle opportunité.
Mais l'index, c'est vraiment intéressant parce que, c'est peut-être un peu technique pour ceux qui nous écoutent, mais pour bien résumer le tout, si on est intéressé à aller de l'avant avec un processus, on s'inscrit, 120 $, on commence la démarche, on définit son profil et en parallèle, on a accès à l'index où on voit toutes les entreprises, sans doute par secteur d'activité, j'imagine qu'on peut ventiler tout ça.
Oui, voilà, il y a filtres à mettre et puis on peut sélectionner les secteurs et les régions, puis les prix de vente recherchés aussi pour pouvoir trouver les entreprises qu'on recherche.
Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent qui sont hyper intéressés à entreprendre un projet. Il y en a même qui c'est déjà le cas. Mais ça peut être vraiment intéressant de mettre son pion en parallèle, de mettre le 120, puis d'avoir accès à l'index pour voir, parce que ça ouvre tellement une perspective incroyable de reprendre quelque chose. C'est pour ça que je voulais qu'on se rencontre aujourd'hui. C'est pour un peu faire en sorte d'enlever nos œillères d'entrepreneur, un peu où on est un peu... des fois, c'est seulement le beau côté de l'entrepreneur qu'on voit. On romance beaucoup cette démarche-là. Quand concrètement, il y a du réel, et il y a le repreneuriat qui est une opportunité, une option, comme l'intrapreneuriat également. Donc, c'est fun de démystifier un peu le repreneuriat, là. Merci pour ça.
Oui, c'est ça. Il y a vraiment des opportunités. Et puis, au contraire, en ayant l'accompagnement de la conseillère, ils vont pouvoir justement aussi, eux, se poser les bonnes questions, se former des fois, parce que la conseillère va les renvoyer en disant, allez regarder peut-être ça ou telle information qui va être pertinente pour vous. Et c'est de là aussi que c'est important de regarder le blog, justement, où ils auront déjà des premières informations pour les aider dans leur processus.
Tu fais bien de répéter le blog, merci pour ça. Est-ce que tu es à l'aise si on termine avec peut-être un exemple concret de reprenariat qui avait soit fonctionné ou avec certains défis, mais on aimerait vraiment t'entendre là.
Oui, ben j'en ai un justement, un client que j'ai pu interroger récemment parce qu'on va avoir aussi le sommet du tourisme, le sommet international du reprenariat qui arrive prochainement.
Ah, c'est quoi les dates par curiosité?
C'est le 11 novembre pour la partie tourisme.
Ok, intéressant.
Et Lisa Frula sera là d'ailleurs en tant que conférencière.
Génial.
Et puis, du coup, je l'ai interrogée par rapport à cette conférence-là. Et c'est vrai que j'ai pu avoir son retour d'expérience, donc c'était très intéressant. C'est un repreneur qui, à la base, avait une formation en industriel et avait travaillé pour des grands groupes comme Bombardier pendant des années. Puis, pendant ses études, il avait acheté une maison dans le Bas-Saint-Laurent. Et il a voulu quitter sa maison pour se rapprocher de la ville de Rimouski et il n'a pas réussi à la vendre. Donc, pendant presque un an, la maison est restée. Il n'arrivait pas à la vendre, puis il s'est dit « je vais la mettre sur Airbnb ». Et de là, il a commencé son business avec Airbnb, puis il a vu que ça fonctionnait. Là, il a mis son annonce le lendemain, cinq annonces étaient demandées, cinq demandes. Donc du coup, il s'est dit « c'est fantastique, on va continuer ». De là, il a fini par acheter d'autres chalets, d'autres maisons, qu'il a transformées en Airbnb ou en chalet. Et il en est aujourd'hui qu'il a racheté des cabines dans le Bas-Saint-Laurent. Donc,
hyper tendance d'ailleurs.
Ça, c'est ça, hyper tendance, de petits chalets au bord du fleuve pour grossir son panel. Et il reste en processus avec nous pour justement maintenant racheter un motel. Donc, c'est ça qui est intéressant parce qu'il est parti d'une maison à la base qu'il a transformée en chalet locatif. Puis maintenant, il a carrément créé son site web sur lequel il vend tous ses chalets, toutes ses cabines. Plus, il aspire par la suite le motel justement à rajouter à son panel d'offres. Et puis, il développe petit à petit son entreprise. Alors, c'est vrai qu'il n'avait pas du tout d'expérience à la base dans le domaine touristique, mais il a su acquérir des compétences en s'entourant des bonnes personnes et puis surtout saisir les opportunités. C'est après ce qu'on a échangé. Il m'a vraiment dit, j'ai la chance à beaucoup jouer, mais je ne pense pas que ce soit de la chance personnellement. Je pense qu'il a juste vu les opportunités qu'il y avait autour de lui. Et il a su les saisir au bon moment parce que ce n'est pas donné à tout le monde de saisir cette opportunité-là et de se dire « Ok, j'ai réussi à faire ça avec un chalet. Est-ce que j'y arriverai avec 5-10 autres chalets ?»
Wow. Donc, lui, il y a eu plusieurs repreneuriat en fait, dans sa démarche. Là.
C'est ça. Il a investi en immobilier pour le transformer en commercial, finalement. Ouais. Et par la suite, quand il a racheté, par contre, les cabines, comme c'était complètement une entreprise, là, il a fait appel à nous.
Ah, c'est à partir de ce
moment-là. On est rentré dans le processus. Et pour l'instant, c'est pour ça qu'il continue aussi avec nous, parce qu'il a dit que ce qu'il avait vraiment apprécié dans ce processus, c'est le fait d'avoir l'intermédiaire, la conseillère. Ah. La conseillère servait d'intermédiaire entre la cédante et lui. Et autant il avait un très bon feeling avec la cédante, mais autant ça lui a permis parfois, justement, d'avoir des questions un petit peu pointilleuses ou des questions qui sont dites délicates pour un repreneur à poser aux cédants, alors que là, c'est la conseillère qui va les poser pour lui.
Elle va servir. Par exemple, la profitabilité ou des.
C'est ça, les
est-ce
cédants.
Est-ce que les employés qui sont là, est-ce que vous les garderiez tous si c'était à refaire? Genre des questions un peu.
Oui, souvent les questions financières, les questions de tout ce qui touche à l'argent. Dans ce cas-là, généralement, c'est vrai que c'est un petit peu délicat, alors que le conseiller qui est neutre va pouvoir apporter ces questions-là. Le cédant a déjà confiance en lui parce qu'ils ont déjà créé une relation, contrairement au repreneur avec qui il doit tisser une relation. Ouais. C'est sûr que le conseiller va pouvoir justement être là pour aiguiller là-dedans.
C'est un cas très intéressant. Est-ce que tu peux dire le nom éventuellement de la compagnie ou c'est sans te mettre sur la sellette là?
Oui, c'est les cabines du phare.
Ok. Intéressant. Je trouve que ça conclut super bien avec un exemple concret. Réel de reprenariat, un peu les avantages de faire affaire aussi avec CETEC. Puis, c'était bien important aujourd'hui que ce podcast-là soit vraiment une discussion sur l'importance du reprenariat au Québec en tourisme, en accueil, en loisirs, en hébergement, en restauration, parce que les chiffres que tu as donnés aujourd'hui, c'est. On parlait vraiment d'opportunités, mais c'est vrai, là. C'est concret, ces opportunités de reprenariat. Et je suis certain que ça intéresse vraiment la gang qui écoute en ce moment. Et Merci vraiment, Audrey, pour ton temps, d'ailleurs.
Ben, merci à toi de m'avoir laissé l'opportunité pour qu'on puisse échanger là-dessus.
Est-ce que tu avais un mot de la fin, peut-être, à nous partager, un conseil, un réflexe que tu suggères ou, à la relève de prendre, de garder pour leur carrière?
Je leur suggère de toujours se former tout au long de leur carrière. Parce que les choses changent, les choses ne sont pas figées, surtout dans le domaine du tourisme. Il y a toujours des nouveautés qui se font. Donc, formez-vous constamment, regardez tout ce qui se passe dans le tourisme.
Le blog, il faut aller voir le blog.
Oui, c'est ça, et même les autres blogs qui existent, etc. Parce qu'il y a plein d'informations intéressantes, autant au niveau intrapreneurial, reprenarial ou entrepreneurial. Et puis même en tant qu'employé, ça leur permettra d'avoir toujours des informations qui leur permettront de justement se développer aussi professionnellement.
Audrey, c'est tellement passionnant. J'ai adoré cet échange-là. Merci beaucoup. Je suis certain que les gens qui nous écoutent ont vraiment apprécié aussi. Puis ça, assurément, peut-être permet de voir une autre possibilité pour le reste de leur carrière. Hein? Qui
oui,
sait?
Clairement.
On croise les doigts. Merci beaucoup, Audrey.
J'espère aussi. Et qu'ils n'hésitent pas si jamais ils ont besoin.
Merci beaucoup.
Merci à
toi. À bientôt.
Bonne journée.